Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau Libre Journal de la vie française. Libre Journal de la vie française pour lequel nous allons continuer à parler de renseignements et d'espionnage, mais cette fois-ci, chers auditeurs, nous allons vous emmener sous l'Ancien Régime, puisque j'ai beaucoup apprécié un ouvrage qui vient tout juste de sortir, qui est rédigé par sous la direction de Éric Denessé, qui est directeur du Centre français de recherche sur le renseignement et qui a contribué, ainsi qu'un certain nombre d'autres personnes, à réaliser un ouvrage passionnant qui s'intitule « Renseignement et espionnage de la Renaissance à la Révolution ». Et donc, chers auditeurs, nous allons vous emmener sous l'Ancien Régime pour voir, après cette histoire de passe de crédit social, etc., de voir comment les choses se passaient. Bonsoir Éric Denessé.
Bonsoir.
Je vous remercie d'avoir répondu si rapidement présent, puisque je vous ai contacté hier, et vous avez répondu tout de suite présent à ma demande, qui était donc d'intervenir suite à la sortie de cet ouvrage qui vient tout juste de sortir, « Renseignement et espionnage de la Renaissance à la Révolution ».
Oui, absolument. C'est un ouvrage qui est sorti il y a quelques jours. Vous avez donc réagi également très rapidement et je vous en remercie. C'est un ouvrage qui est important puisque c'est le second volet d'une histoire mondiale du renseignement que nous avons commencé l'an dernier avec un premier tome consacré au renseignement et à l'espionnage pendant l'Antiquité et le Moyen-Âge et qui va se poursuivre avant la fin de l'année avec un troisième tome consacré pareil à l'espionnage entre cette fois l'Empire et l'affaire Dreyfus et puis les années à venir consacreront d'autres tomes aux questions de la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale et la Guerre froide.
Alors, Éric Denessé, c'est très bien tout ça, mais il y a aussi ce qui se profile derrière, derrière tout ça, ou plus exactement devant nous.
Oui, bien sûr. Alors, il faut faire une différence entre le travail culturel que nous faisons grâce aux éditions Ellipse avec cette collection, parce que réfléchir aux questions de renseignement dans l'actualité, sur les sujets d'actualité, doit nécessairement se baser sur une connaissance de ce qu'a été cette discipline au cours des siècles passés, parce que c'est malheureusement un métier et un domaine qui reste à la fois très mal connu et très fantasmé. Donc, parallèlement à des travaux d'actualité que nous menons avec mon équipe au Centre français de recherche sur l'enseignement, nous faisons aussi ce travail de mémoire et de recherche dans les archives pour pouvoir replonger jusqu'aux racines du phénomène et voir comment il a évolué.
Oui, alors justement, c'est exactement ce que je voulais vous faire dire et je vous en remercie. Nous allons nous plonger dans cette histoire. Avant tout, je voudrais rappeler que il y a un certain nombre de contributeurs qui ont participé donc à la rédaction de cet ouvrage passionnant, Renseignement et espionnage de la Renaissance à la Révolution, aux éditions Ellipse. Vous nous donnez un petit peu le profil d'un certain nombre de contributeurs, enfin de personnes qui ont travaillé avec vous, Éric Denessé?
Oui, alors c'est un travail collectif et j'en profite pour remercier tous les auteurs qui ont accepté d'y contribuer. 22 participants, 22 contributeurs qui ont écrit un ou plusieurs articles. Les uns sont issus du monde universitaire, hein, CNRS, diverses universités, centres de recherche. D'autres sont des anciens, des experts du renseignement. Et ce qui permet d'avoir un regard croisé à la fois avec ceux qui sont spécialistes de l'histoire et du travail en archives et puis ceux qui connaissent le métier qui ont permis d'apporter des éclairages plus opérationnels. Alors, ce qui est important de dire, c'est que la préface de cet ouvrage est effectuée par Yves Bonnet, ancien député, ancien directeur de la DST, qui lui est un praticien, bien sûr, du renseignement. Et puis nous avons vraiment des spécialistes de l'histoire, aussi bien des jeunes chercheurs qui ont travaillé sur tout ce qui est renseignement intérieur et surveillance des populations en France. Nous avons aussi des spécialistes canadiens ou américains qui sont venus apporter leur éclairage sur le renseignement étranger, généralement espagnol ou portugais qui avait lieu en France entre le 16e et le 18e siècle, d'autres spécialistes du renseignement britannique et puis également des gens qui, comme François-Yves Damon, travaillent sur le renseignement chinois et le rôle des eunuques dans les services secrets, puis toute une série d'articles également, dont certains sur le renseignement indien entre le 13e siècle et la colonisation britannique. Donc des périodes et des zones géographiques extrêmement variées.
Alors, ça, vous l'avez bien dit, nous allons essayer de nous intéresser essentiellement à ce qui est dans un premier temps le plus proche de nous, c'est-à-dire à la France. Quelle est, d'après vous, la période où, finalement, l'espionnage a été le plus efficace et voire même le plus virulent? Est-ce que c'est l'époque de la Révolution, justement, ou alors l'époque de Louis XV ou Louis XIV? Ou même avant, non, ou c'est... même précédemment?
Alors, précédemment, effectivement, mais on va sortir du cadre du livre, c'est-à-dire sur la période de la fin du Moyen-Âge. Le règne de Louis XI est un grand règne en matière de renseignement et de consolidation du précaré national. Mais à partir de la période sur laquelle nous sommes consacrés au livre, c'est vrai que en termes de renseignement extérieur, l'épisode qui est devenu célèbre, parce qu'il était longtemps méconnu, c'est celui du secret de roi de Louis XV, bien sûr pour la guerre de succès sur le trône de Pologne, mais qui s'est également prolongé pour la guerre d'indépendance des États-Unis, puisque notamment Louis XVI a fait une véritable opération de subversion contre les Britanniques, et en utilisant notamment des personnages célèbres, dont Beaumarchais, qui a été trafiquant d'armes et fournisseur de munitions pour les insurgés américains.
Alors, Éric Denessé, excusez-moi, je vous arrête, mais parce que vous avez évoqué deux sujets passionnants, écoutez, nous avons un tout petit peu de temps, que j'aurais aimé que vous puissiez nous raconter au moins un de ces deux sujets qui est absolument croustillant.
Alors, de manière assez rapide, parce que j'invite les auditeurs à se plonger dans notre ouvrage.
Qui est conséquent, très conséquent.
Oui, ça fait 500 pages. Louis XVI, qui était un monarque très imprégné de renseignements, avait construit une véritable diplomatie parallèle. Il n'avait qu'une confiance limitée dans certains de ses ministres des Affaires étrangères successifs, et il a décidé de mettre en place un véritable bureau parallèle, qu'on appelait le secret du roi, qui lui permettait de mener une politique secrète qui était souvent à l'opposé ou en contradiction avec la politique officielle qu'il avait demandé, je dirais, de conduire à son ministre des Affaires étrangères. Et il a cette politique parallèle se conduisait essentiellement avec deux types d'hommes, des individus qui étaient des porteurs de messages, de missives, et qui lui ramenaient de l'information. Le chevalier Déon en fit partie, entre autres. Et à côté de ça, il y avait aussi un cabinet noir qui faisait de l'interception de courriers, et puis de l'ouverture de lettres et du déchiffrement pour pouvoir les lire. Et ça a duré pendant plusieurs décennies. À sa mort, ça a failli disparaître, et c'est à ce moment-là que finalement l'un des dirigeants de ce bureau secret, Tercier, a réussi à convaincre le monarque suivant de poursuivre cette action, et qu'une partie des hommes qui avaient œuvré dans l'ombre pour Louis XV ont continué à le faire sous le règne de Louis XVI, et ont notamment joué un rôle important pour déstabiliser notre ennemi de toujours, l'Angleterre, et permettre aux insurgés américains de gagner leur indépendance en leur livrant du renseignement, des armes et des munitions.
Ah oui, donc finalement, le renseignement a joué pleinement son rôle pour l'indépendance des États-Unis.
Oui, c'est une période qui a été assez mal connue. Il faut rendre hommage à Gilles Perrault, le célèbre romancier qui a fait, lui, une histoire de cet épisode en 4 tomes. Et d'ailleurs, c'est lui qui écrit dans notre ouvrage le chapitre consacré au secret du roi. Mais effectivement, c'est assez méconnu parce que nous n'avons pas, comme les Britanniques, une tradition, je dirais, d'écrire les mémoires de ceux qui ont participé au renseignement. Et c'est pour ça qu'on voulait le mettre en valeur, parce que c'est un épisode qui est tout à fait à l'honneur du renseignement français.
Où est-ce qu'on allait pêcher ces espions ?
Alors, c'est ça qui est intéressant sur la période, c'est que on voit que les espions, c'est comme aujourd'hui, d'une certaine façon, mais plus jadis, c'est un monde très interlope. On va avoir effectivement des militaires qui font de la reconnaissance, on a beaucoup de prêtres qui ramènent de l'information, on a bien sûr des diplomates, on a aussi des naturalistes qui, sous couvert d'étudier la faune et la flore, vont également faire des observations et ramener de l'information. Notamment, on cite le cas de Pierre Belon, qui entre 1517 et 1565 a joué un rôle tout à fait important en la matière. Et puis, il y a aussi des hommes célèbres. Je cite cité Beaumarchais tout à l'heure, mais Voltaire a joué aussi un rôle très important dans le dossier du secret du roi, et donc un certain nombre de personnalités célèbres, philosophes ou écrivains, ont été impliqués dans ce qu'on appelle le grand jeu.
Est-ce qu'ils étaient rémunérés ou est-ce que c'était par idéologie pour certains? Comment ça se passait?
Écoutez, un petit peu des deux, mais bien sûr, ils étaient souvent rémunérés, c'est ce qui motive les hommes, je dirais malheureusement, au-delà des idéaux. Et c'est aussi ce qui est intéressant pour tous les historiens qui ont apporté leur contribution sur différents thèmes dans ce livre, c'est que dans les travaux qu'ils ont faits dans les archives, autant il est difficile parfois de découvrir des traces de renseignements parce que on ne connaît pas toujours la manière dont ça se passait à l'époque, mais l'un des angles par lequel on se rend compte qu'il y a des activités de renseignement, c'est en étudiant les comptes, en étudiant les sommes dépensées, et un certain nombre de contributions que les auditeurs trouvant dans l'ouvrage mettent ceci en lumière. Comment est-ce qu'on arrive à identifier des activités de renseignement dans le passé en étudiant la comptabilité d'un certain nombre de ministères ou de comtés ou de régions?
Alors, je rappelle le nom de votre ouvrage, Renseignements et espionnage de la Renaissance à la Révolution, aux éditions Ellipse. Ce que je voudrais connaître, Éric Denessé, c'est l'organisation. Est-ce que tout ça est parfaitement organisé avec un réseau, ou alors est-ce que on trouve des personnes d'influence et on les sollicite à un moment donné?
Oui, alors votre question est importante parce que en réalité, avant la Seconde Guerre mondiale, il est très difficile de discerner de manière permanente des services organisés. Il en a existé, l'Empire byzantin par exemple en a eu un pendant très longtemps, mais en réalité, avant le XXe siècle, on voit des services secrets, parfois très structurés, puis disparaître. Et puis en parallèle, on voit beaucoup de petites organisations se mettre en place, parfois avec quelques individus, parfois un réseau un peu plus structuré, parfois des organisations très structurées. Mais momentanée. Donc tout ça est de plus en plus organisé, mais n'a pas encore pris la forme que l'on découvrira et que l'on arrêtera à partir finalement des années 1940.
Alors Dumas a un peu caricaturé avec l'histoire des trois mousquetaires, Richelieu. Est-ce que Richelieu avait un service avec son abbé, dont j'ai oublié le nom, vous allez me rappeler son nom?
Oui, alors l'épisode de Richelieu est très important. Malheureusement, nous n'avons pas trouvé de spécialiste pour écrire un chapitre sur ce thème. Et c'est vrai que l'histoire du Richelieu est de Père Joseph.
Père Joseph, voilà.
Qui était le patron d'un véritable réseau de renseignement grâce à ses capucins dans toute l'Europe. Voilà, ça, il y a eu toute une série de livres d'ailleurs sur le sujet. Mais malheureusement, nous n'avons pas trouvé un contributeur historien spécifique de cette question pour écrire
Et démêler.
Vous avez raison. C'est effectivement un épisode très important et qui mériterait évidemment qu'on mette l'accent dessus.
Oui. Et alors justement, ce qui est très intéressant, c'est que vous nous avez dit, certes, il y a le Père Joseph, mais vous nous avez dit tout à l'heure l'Église. Donc, quels étaient c'est-à-dire qu'on sollicitait les communautés, puisqu'elles étaient présentes dans tous les pays d'Europe, pour être une source de renseignement.
Oui, il y a toute une série d'exemples dans lesquels le clergé est utilisé pour faire de l'information, voire du renseignement. Alors, on a notamment l'exemple d'un curé au service du renseignement suisse dont on parle dans ce livre, mais on le voit également dans les actions espagnoles à l'époque de Charles Quint et de Philippe II d'Espagne contre l'Empire ottoman, où un certain nombre de prêtres sont utilisés, envoyés soit en reconnaissance, soit en contact. C'est quelque chose d'assez général, d'assez régulier, plus exactement. Les réseaux religieux ont toujours joué un rôle important en la matière.
Alors, on le sait, alors je ne sais pas si vous en avez parlé, mais sous l'époque du roi Louis XIV, il y a eu un prêtre qui était en Chine et qui avait trouvé comment les Chinois réalisaient leur faïence. Malheureusement, son rapport n'a jamais été lu. Il n'a été découvert qu'après. Donc ça veut dire que finalement, les choses étaient pas si bien organisé que ça à l'époque.
Non, mais ça, d'abord, il faut rappeler que ça dépend des périodes, puisque nous couvrons trois siècles, ça dépend des pays, ça dépend également
des
monarques.
Bien sûr, non, mais pour rester en France.
Voilà. Mais pour rester en France, oui, tout n'est pas organisé encore de manière très structurée. C'est d'ailleurs à peine le cas, c'est à peine mieux à l'étranger. Ça se met en place progressivement avec des avancées majeures. On le voit notamment avec la mise en place des postes royales, qui sont aussi un moyen de faire circuler l'information de manière plus rapide. Mais on le voit aussi, et ça, la France a été en pointe assez longtemps à l'époque, sur tout ce qui est chiffrement des messages et écriture secrète, où les cabinets noirs sous Richelieu, comme d'ailleurs sous Louis XI, étaient assez développés, et nous étions parmi les meilleurs en Europe en la matière à ce sujet.
Alors, est-ce que c'est essentiellement du renseignement et de l'espionnage des autres pays, ou alors est-ce qu'il y a également de l'espionnage, j'allais dire, de la population elle-même ?
Oui, alors il y a vraiment les deux, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il faut rappeler qu'au cours de la période couverte, nous traversons à la fois les guerres de religion, et bien sûr d'autres jacqueries, et ce qui est intéressant, c'est que ces guerres de religion, qui ont quand même beaucoup secoué notre pays, ont donné lieu à la mise en place d'un véritable réseau de renseignement, en tout cas par le pouvoir catholique, afin de surveiller les protestants un petit peu partout sur le territoire, et on explique comment non seulement la monarchie française utilisait ses réseaux pour surveiller ce qu'elle considérait comme des dissidents, mais comment les protestants eux-mêmes s'organisaient pour mettre en place de la contre-surveillance pour échapper au pouvoir royal et pouvoir se réunir et exercer leur culte dans ce qu'ils appelaient le désert, dans les Cévennes ou dans d'autres régions. Donc on a vraiment les deux facettes de cette période, le renseignement extérieur qui a lieu, comme on le disait tout à l'heure, dans le cadre du secret du roi, mais aussi le renseignement militaire pendant les campagnes, le rôle des consuls de la marine française à Gênes pour surveiller ce qui se passait en Méditerranée, puis la manière dont à la fois les villes elles-mêmes faisaient du renseignement pour se protéger des menées adverses sur le territoire français. On donne un exemple à travers les villes du Lyonnais, et puis surtout bien sûr la surveillance des protestants et la contre-surveillance exercée par les protestants à leur tour.
Alors, vous avez parlé de cette surveillance, j'allais dire interne au pays, mais est-ce que finalement les renseignements avaient prévenu le roi ou l'avaient alerté des fomenteurs de la révolution ?
Alors, nous n'évoquons malheureusement que, je dirais marginalement ce dernier aspect. Non, il n'y a pas d'éléments, en tout cas dans les recherches que nous avons conduites, de cet événement. En réalité, c'est pas tellement surprenant, puisque souvent, le rôle d'un service de renseignement, c'est de répondre aux questions que pose le monarque ou le dirigeant, et non pas de faire de la prospective gratuite. Et donc, il est tout à fait compréhensible que à la fin du régime de Louis XVI, il n'ait pas vu cette émergence de l'insatisfaction qui existait, puisque c'est un véritable phénomène de surprise, même s'il en existait des signes avant-coureurs, mais l'organisation du renseignement interne en France ne permettait pas de le discerner comme on aurait peut-être pu le faire au XXe siècle à travers le service des renseignements généraux, par exemple.
Oui, bien sûr. Alors, je rappelle le titre de votre ouvrage, Renseignement et espionnage de la Renaissance à la Révolution, aux éditions Ellipse. J'ai également une personne, bonsoir. Alors, je vous prie, chers auditeurs, de bien vouloir m'excuser, mais je n'ai reçu vos questions pour notre invité précédent que maintenant. Donc, évidemment, c'est un petit peu tard, malheureusement. Donc, un invité qui nous écrit, bonsoir, cher Laurent, pouvez-vous demander à votre invité si par parlant d'espionnage et de renseignements, il faut nous fournir des renseignements sur le chevalier Déon.
Alors oui, effectivement, le chevalier Déon, qui a été un des acteurs du secret du roi, avant d'ailleurs presque de le trahir à la fin de sa carrière, et c'est Beaumarchais qui est allé à Londres récupérer un certain nombre de documents compromettants que Déon voulait utiliser contre le monarque. Oui, c'est un personnage à la fois clé du renseignement français à cette époque, qui a nourri énormément de mystères et de controverses sur son sexe réel et sur la nature de ses activités. Nous l'abordons à travers l'une des contributions de manière un petit peu marginale. Là aussi, un certain nombre d'ouvrages existent sur ce thème, et peut-être que dans une seconde édition, nous y accorderons une part plus importante.
Oui, il faut savoir d'ailleurs qu'il a fini prisonnier de ses propres dires, puisqu'il est obligé de se grimer en femme jusqu'à la fin de sa vie. Voilà, donc finalement il a payé très cher sa révolte à l'égard du roi. Alors justement, j'ai parlé du roi, vous nous avez dit tout à l'heure, il se méfiait, j'évoque le roi Louis XVI, et même Louis XV d'ailleurs, il se méfiait beaucoup de leur entourage, mais leur entourage, parce qu'ils pensaient que leur entourage était à la solde des Anglais, ou alors parce que leur entourage, tout simplement, ne correspondait pas à ce qu'ils souhaitaient. Pourquoi est-ce qu'ils étaient si méfiants à l'égard, par exemple, de leur ministre des Affaires étrangères ?
Écoutez, je pense... alors d'abord, je ne suis pas le meilleur spécialiste de cette période. J'ai coordonné l'ouvrage, donc il y a des aspects qui m'échappent encore. Mes collègues sont beaucoup plus pointus que moi sur ce sujet-là. Mais ce qui ressort de cette époque, comme finalement un petit peu pendant les trois siècles que nous avons couverts, c'est que finalement, comme aujourd'hui, la trahison, le double jeu, la corruption,
oui, c'est ça.
Le fait d'être recruté par l'étranger a toujours existé. On le verra au siècle suivant, à travers notamment le jeu de quelqu'un comme Talleyrand, mais dès cette époque, c'est perceptible. Et pour lutter contre ce double jeu, effectivement, Louis XV a mis en place un système qui lui permettait d'être à peu près certain, avec la petite équipe dont il disposait, d'avoir le secret de ses intentions et de conduire des opérations et des contacts que personne ne pouvait déceler.
Est-ce que c'était façon James Bond, on éliminait également ou pas ?
Non, on n'a pas vraiment d'exemple de cette nature. Alors, en plus, le code pénal à l'époque n'était pas le même, donc les disparitions, les assassinats ont toujours malheureusement existé. On le voit beaucoup plus en matière de renseignement extérieur, où là, on a commencé à avoir un certain nombre d'activités, notamment lorsque différents pays, dont Venise, lutte contre l'Empire ottoman. Il est vrai que le service le plus en pointe à cette époque, ce sont les services de la République de Venise. Nous avons une contribution très intéressante, et oui, les services de la République de Venise avaient véritablement mis en place déjà des opérations psychologiques, des actions d'assassinat, d'empoisonnement. Ils étaient en la matière beaucoup plus avancés que leurs partenaires français ou britanniques de l'époque.
Mais ils l'ont toujours été, ou presque, quand on se souvient de cette fameuse croisade qui était détournée sur Constantinople, c'est quand même une histoire rocambolesque également. Et ça a été piloté, il y a eu une histoire d'espionnage, etc., de manipulation.
Absolument, et ça a été la grande force de la cité, de cette cité italienne, qui pendant finalement assez vite s'est développée et a développé son propre renseignement à des fins commerciales, puis progressivement à des fins politiques. Vu qu'elle se considérait à la fois menacée par tout le monde et qu'elle ne cessait d'étendre ses réseaux, elle avait cette capacité effectivement d'une part à faire un contrôle extrêmement étroit sur le territoire de la République. Et d'ailleurs, nous avons en couverture de livre, La Bocca della Verità, qui était la bouche de la vérité, dans lequel les Vénitiens venaient dénoncer ce qu'ils considéraient comme portant préjudice à la cité. Et puis on les a vus partout à l'étranger faire de la corruption, acheter, monter des réseaux de renseignement et éliminer ceux qui les dérangeaient.
Et puis il y a eu cette histoire également, anecdote, de verriers qui avaient trahi, entre guillemets, la République de Venise et qui ont été assassinés en France.
Oui, alors cette histoire aussi est assez amusante. On a, d'ailleurs, on ne l'a pas évoqué, au-delà du renseignement intérieur et du renseignement extérieur, nous évoquons beaucoup dans le livre tout ce qui est renseignement espionnage économique et industriel, parce qu'il faut rappeler que la première révolution industrielle a lieu au XVIIIe siècle, mais avant, en Angleterre, mais avant cela, on voit déjà avec le développement des relations internationales et les rivalités commerciales et le développement des activités bancaires, de plus en plus de renseignements économiques se mettre en place.
J'ai un auditeur qui nous demande, pouvez-vous nous parler du masque de fer, espion Mattioli, italien, qui aurait trahi Louis XIV ?
Alors malheureusement non, je ne peux lui apporter aucune réponse, je ne suis pas du tout spécialiste de ce sujet, je suis navré. Mais
est-ce que vous abordez l'histoire du masque de fer dans votre ouvrage ?
Non, aucunement. D'abord, nous ne couvrons pas encore, malgré les 27 contributions, il y a encore des trous dans cette histoire, et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a encore des recherches en perspective qui sont merveilleuses.
Et pourtant l'ouvrage fait 500 pages, hein. Oui.
Et pourtant, l'ouvrage fait 500 pages, mais on aurait pu en faire 1000 si nous avions trouvé d'autres contributeurs pour être sûrs d'aborder tous les aspects intéressants de cette période.
Bah, la période napoléonienne va être exactement comme votre ouvrage précédent, va être absolument passionnant.
Écoutez, l'ouvrage va sortir, je pense, deuxième quinzaine de novembre. Ce sera donc, là aussi, il sera passionnant avec, encore une fois, des périodes et des événements qui ne seront pas couverts parce qu'on ne peut pas faire des ouvrages de 1000 pages. Il sera consacré donc à la période qui va du Premier Empire jusqu'à l'affaire Dreyfus.
Oui, ça va être un gros ouvrage aussi. Y avait-il des femmes, nous demande un auditeur, y avait-il des femmes espionnes de l'envergure un peu de Mata Hari?
Alors, oui, déjà, je voudrais dire que Mata Hari n'était pas une espionne, c'est un mythe, c'est une pauvre fille qui a été manipulée tout au long de sa carrière. Et oui, à l'époque, il y a un certain nombre de femmes qui jouent des rôles importants. Alors, ce ne sont pas encore au sens propre, des femmes qui dirigent des réseaux ou qui font du renseignement, ce sont plus des informatrices. Certaines jouent un rôle important lorsque ce sont des courtisanes que l'on arrive à mettre dans l'entourage des monarques. J'ai le souvenir d'une Louise de Kerangal qui avait été envoyée en Angleterre séduire le roi, le monarque anglais, qui était une source de renseignements extraordinaire parce que celui-ci se confiait beaucoup à elle.
Oui, et donc c'était la manipulation plus qu'autre chose.
Oui, c'est de la manipulation et de toute façon, je crois qu'il faut rappeler que l'espionnage est le plus vieux métier du monde ou le deuxième plus vieux métier du monde et que les leviers sur lesquels on va agir pour manipuler les individus sont toujours les mêmes. C'est-à-dire que depuis l'Antiquité, c'est les questions d'ego, d'ambition, les frustrations personnelles, mais aussi le sexe, l'amour, l'argent, la corruption. Et donc, on joue en permanence sur ces leviers depuis, je dirais, l'apparition de l'écriture jusqu'à aujourd'hui.
Oui, absolument. Alors, comment est-ce que vous procédez, maintenant je voudrais revenir un peu à la genèse de ces ouvrages, comment est-ce que vous procédez pour choisir vos intervenants?
Alors, d'abord, nous avons dans notre équipe des chercheurs au Centre français de recherche et enseignement qui travaillent sur ces questions-là depuis longtemps. Donc, nous avons déjà un squelette, période par période, on sait les sujets qu'il importe de mettre en avant, même si nous n'avons pas toujours beaucoup d'informations dessus. Pour une raison simple, c'est que quand on a été du métier, comme c'est le cas d'une grande partie de mon équipe, quand on lit des livres d'histoire, on se rend compte tout de suite de traces de rédaction de renseignements, je dirais parfois que des historiens classiques ne détectent pas. Donc ça nous permet de nous dire à un moment, je prends un exemple, et au Moyen-Âge une bataille a lieu, et puis une poterne s'ouvre, et puis la ville tombe parce que les assaillants s'en rentrent par la poterne. Pour nous, ça veut dire qu'il y a eu corruption, qu'il y a eu réseau de renseignement, et donc on va chercher de manière plus approfondie. Après, on a beaucoup de contacts dans le milieu universitaire avec nos collègues, et les contacts, on fait ce qu'on appelle des appels à contribution dans le monde universitaire, en leur disant, voilà, nous prévoyons de faire un ouvrage sur tel thème. Il nous semble que tel et tel sujet sont importants et on fait donc appel à des chercheurs dont on connaît déjà l'appétence ou l'intérêt pour ces questions-là.
Oui.
On a la grande chance qu'ils y répondent positivement. La grande majorité sont français, bien sûr, mais nous avons la chance dans ce numéro-là d'avoir des contributions d'un chercheur hongrois, de chercheurs canadiens, de chercheurs américains. Ça a été un peu le cas déjà dans le premier tome et ce sera également le cas dans le troisième tome.
Quelques dernières questions de nos auditeurs qui demandent, mis à part la République de Venise, quel était le plus virulent service de renseignement en Europe? Les Anglais, alors, j'aurais tendance à dire, non?
Non, les Anglais commençaient à monter en puissance. Les services espagnols, notamment à l'époque de Granvelle, étaient très très avancés. Et puis, je crois que il faut regarder aussi à l'époque ce que faisaient les cités italiennes, comme Gênes, comme Amalfi, comme Bari. On a là des exemples intéressants. Mais encore une fois, ça a été souvent très ponctuel pendant une période donnée qui peut durer plusieurs décennies. Et tout ça finit par s'évaporer avec le temps. Sur la fin du XVIIIe siècle.
Merci beaucoup, Éric Denessé. Nous aurions pu continuer cet échange absolument passionnant ensemble. Je rappelle que vous êtes directeur du Centre français de recherche sur le renseignement et que vous avez donc contribué à un ouvrage qui s'appelle « Renseignement et espionnage de la Renaissance à la Révolution » aux éditions Ellipse. C'est un ouvrage qui est conséquent et qui fait 500 pages, qui nous parle évidemment du monde entier et nous attendons avec une impatience certaine. Et je vous donne rendez-vous. J'aurai le plaisir de vous recevoir, si vous voulez bien, un peu plus longuement, dans le cadre de notre émission au mois de novembre, pour parler de la suite, tout simplement, de cette période très riche de la Révolution, du Premier Empire, plus exactement. Ah, vous nous avez dit à l'affaire Dreyfus, c'est bien cela?
C'est cela, oui.
Oui. Merci encore beaucoup pour votre intervention et à très
Merci
bientôt.
Merci à vous.
Bonsoir. Je vous souhaite une très bonne soirée.